Et bonjour à tous, aujourd'hui avec Michel Vinocq, deuxième partie de l'histoire du socialisme français, aujourd'hui 1946-2003, de Guy Mollet à François Hollande.
Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi,
avec la société capitaliste, celui-là, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste.
Ans d'histoire. Les congrès se gagnent toujours à gauche, disait naguère François Mitterrand. Et c'est peut-être pourquoi, dimanche dernier à Dijon, les dirigeants du Parti socialiste, aujourd'hui dans l'opposition, ont retrouvé les accents révolutionnaires des grands congrès d'autrefois. Ceux pendant lesquels les socialistes stigmatisaient le capitalisme et la bourgeoisie, avant de composer avec eux une fois arrivés au pouvoir. Bien avant 1981, c'était déjà le cas au lendemain de la guerre lorsque le parti de Léon Blum était suffisamment fort pour qu'un de ses dirigeants, Vincent Auriol, devienne le premier président socialiste de l'histoire de France.
Les vœux sont faits. Monsieur Vincent Auriol est, selon la formule, proclamé président de la République pour 7 ans. Le nouveau président répond aux effusions de ses petits-enfants avant de recevoir l'hommage officiel de monsieur Léon Blum.
Laissez-moi ajouter que l'affection des frères aînés qui me lie à vous depuis tant d'années donne pour moi à cette cérémonie un sens particulier d'émotion et de tendresse.
Michel Vinocq, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, c'était l'émotion de Léon Blum en 1947, rendant hommage à son ami Vincent Auriol, premier président socialiste. On croit toujours que c'est François Mitterrand. C'était Vincent Auriol en 1947, puisqu'il était membre du Parti socialiste, on disait à l'époque la SFIO, qui contrôlait d'ailleurs non seulement la présidence de la République, mais aussi le gouvernement, avec comme premier ministre, on disait président du Conseil, Paul Ramadier. Le PS était un des trois grands partis de l'après-guerre, il faut le rappeler, Michel Vinocq.
Oui, mais il faut nuancer, parce que après la guerre, le grand parti, c'est le Parti communiste. Et précisément, c'est un choc pour les socialistes, lors des élections de la Constituante, d'être pour la première fois devancé par le Parti communiste. Le Parti communiste, qui, ne l'oublions pas, atteindra près de 30% des suffrages exprimés, ce qui est considérable. Et c'est pourquoi, c'est une des raisons pour lesquelles, lors du congrès de 1946, Guy Mollet, qui va l'emporter, l'emportera sur une position de gauche. Parce que c'est un réflexe. Lorsque l'on est affaibli, il faut réaffirmer son identité révolutionnaire. Il y a, entre les deux guerres, un essayiste qui s'appelait Thibaudet, qui a inventé un mot qui se prête, je crois, très bien à l'histoire des congrès du Parti Socialiste. C'est le mot « sinistrisme ». Ça vient du latin « sinistère gauche ». Et ça veut dire que on ne veut pas être suspecté de ne pas être suffisamment à gauche. Et qu'est-ce que c'est être à gauche quand on est au Parti Socialiste? À l'époque, en tout cas, c'est être marxiste. Ce que Mollet appelle les postulats fondamentaux du socialisme.
Alors vous parlez de Guy Mollet, Michel Vinocq, il faut rappeler que le patron du PS au lendemain de la guerre, ce n'est pas Blum, ce n'est pas non plus Vincent Auriol, puisqu'il est président de la République, c'est effectivement Guy Mollet, qui a un programme en août 46, on ne peut plus révolutionnaire, comme vous le dites. Or c'est le même homme, c'est d'ailleurs lui qui demande à ce que les communistes soient présents au gouvernement, ce qu'ils vont être jusqu'au milieu de l'année 47, et c'est le même homme qui ensuite, pendant des années, va ensuite conspuer le parti communiste, dire il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à gauche, il est à l'Est, c'est-à-dire l'accuser d'être un féodé à Moscou, c'est d'ailleurs, il n'est pas faux, mais c'est vraiment extraordinaire ce personnage de Guy Mollet, l'évolution de ce personnage pendant, au début des années 50.
Ben, il est pris aussi dans une conjoncture, parce que il est très près des communistes en 1946, en disant justement que les socialistes ne devaient pas entrer dans un gouvernement sans les communistes, mais on sait qu'à partir de la fin de 1947, c'est la guerre froide qui commence. Et alors, à ce moment-là, son marxisme, ben, il va le mettre au placard, parce qu'il y a, et on ne peut pas lui en vouloir de cela à mon avis, ce qui compte c'est évidemment la défense de la liberté. N'oublions pas que les partis socialistes dans les démocraties populaires sont tous saucissonnés les uns après les autres et disparaissent en raison de l'hégémonie communiste qui leur impose cette disparition. Donc Guy Mollet, qui défend son parti, est du côté de l'Alliance Atlantique, et du même coup, il fait des alliances, il passe des alliances à droite, et du même coup, eh bien, son parti évolue effectivement vers quelque chose qui ne lui ressemble pas.
Alors on va s'en rendre compte très vite, Guy Mollet est donc resté pendant 23 ans le patron du Parti Socialiste de 1946 à 1969, et puis il devient en 1956 chef du gouvernement, en engageant d'ailleurs un peu plus la France dans la guerre d'Algérie, où il envoie le contingent, et en faisant semblant d'ignorer l'usage de la torture.
Le gouvernement a pris mercredi une série de décisions graves. Les hommes des contingents rappelés doivent savoir qu'ils vont en Algérie remplir une mission nationale. Leur rappel sous les drapeaux, leur présence là-bas témoigne d'abord de la volonté de la France de rester en Algérie.
S'il était vrai que pour faire parler un coupable, il soit torturé, ce serait intolérable. C'est pas concevable, même si ça ne se produit qu'une fois. Il y a des méthodes que les autres emploient, que nos adversaires emploient. Mais même dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur répondre par la même méthode. La France, c'est dans le monde le pays des droits de l'homme.
C'était Guy Mollet en 1956 et 1957. Michel Vinoc, oui, justifiant, on entend, l'envoi du contingent en Algérie et donc la guerre, feignant d'ignorer la torture dont il connaissait l'usage, elle se pratiquait sous son gouvernement. On est loin de Jean Jaurès. Hein.
Oui, c'est une page lugubre hein, de l'histoire du Parti Socialiste. N'oublions pas que Guy Mollet a fait une campagne pour les élections du 2 janvier 1956 sur le thème de la guerre imbécile et sans issue, en parlant de l'Algérie, et que une fois au pouvoir, il va engager toutes les forces militaires de la France dans une guerre qui pouvait se justifier comme une opération de police, mais de la part d'un gouvernement socialiste quand même, qui a des références, qui a une doctrine, qui est par nature anticolonialiste, du moins pourrait-on le croire, il y a eu là un manque de courage, certainement. Bien sûr, il faut tout de même rappeler que la situation est extrêmement difficile, que c'était pas, voyez ce que De Gaulle, qui lui a fini par faire la paix en Algérie, voyez le temps que cela lui a pris, les difficultés, les obstacles. Donc, vous savez, j'appartiens à une génération qui a été profondément anti-molettiste. Mais l'historien que je suis doit aussi nuancer et voir à quel point il était dans une situation terrible. Mais manque de lucidité, manque de courage, ça, et surtout sur la question de la torture, c'est, je le disais, une page sinistre.
Alors, en 1958, le général de Gaulle arrive au pouvoir avec la 5e République, approuvé d'ailleurs au début par Guy Mollet. En revanche, très vite, les socialistes passent dans l'opposition en 1959, et là, vraiment, c'est une période pendant laquelle ils sont pratiquement absents. Les 10 premières années de la 5e République, le Parti Socialiste a encore, la SFIO, se divise profondément. Il est absent à l'élection présidentielle de 1965, laissant la place à François Mitterrand, candidat unique de la gauche. Et quand il est présent aux élections, à l'élection présidentielle 69, c'est un désastre. 5% des voix à peine, c'est-à-dire 4 fois moins que le candidat communiste.
Oui, le Parti Socialiste s'est mal remis de cette période de la guerre d'Algérie. Il a été profondément divisé par le retour du général de Gaulle. Je pense que généralement, les historiens jugent que Guy Mollet a agi de manière, cette fois, assez lucide et réaliste, puisqu'il a pris parti pour De Gaulle, contrairement à la moitié de son parti qui était tout à fait hostile. Mais cette division va provoquer une scission, et avec des personnalités qui ne sont pas des moindres, comme Alain Savary, Édouard Depreux, etc., qui vont fonder un nouveau parti, le PSA, et c'est une déroute pour ce Parti Socialiste, qui va un peu retrouver de vigueur lorsque la guerre d'Algérie sera terminée en 1962, et de nouveau, on voit que Guy Mollet va faire un pas vers le Parti Communiste, comme en 1946, pour les alliances électorales du deuxième tour en 1962, et commence alors cette convergence nouvelle entre les deux parties.
En tout cas, ça n'empêche pas le désastre dont je parlais.
Oui, 69.
Michel Vinocq, 69, Gaston Defer, 5%, lui très hostile à l'alliance avec les communistes. Alors, d'où la nécessité pour le Parti Socialiste de se réformer, de réformer le Parti de Jaurès. D'ailleurs, il perd le nom en 69 de SFIO. Il devient le Parti Socialiste, dirigé alors par Alain Savary, et dont François Mitterrand prenait la direction au Congrès d'Épinay sur un programme très à gauche en juin 1971.
Violent ou pacifique, la révolution, c'est d'abord une rupture. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique ça va de soi, secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste.
Mitterrand, 43 926. Savary, 41 757.
C'était le congrès d'Épinay, François Mitterrand devenant premier secrétaire du Parti Socialiste, dont il a pris la carte, il faut le rappeler, le jour où il en devenait le patron, Michel Vinocq. Il n'était pas socialiste d'origine.
Certainement pas. À l'origine, c'était même plutôt un homme de droite. Dans sa jeunesse, proche des Croix de Feu, pendant la guerre, pétainiste, jusqu'en 1943, tout au moins, résistant, mais même quand il entre dans la 4ème République comme un homme politique, on ne peut pas dire qu'il soit un homme de gauche. Ce n'est que peu à peu que sous la 4ème République, cependant, il va faire figure d'homme de gauche, non loin de Pierre Mendès-France, sur les questions coloniales, du reste, où il est attaqué avec virulence par la droite, et puis surtout le grand coup d'éclat de Mitterrand, c'est en 1958, lorsqu'il s'oppose au général de Gaulle, avec Mendès-France du reste, ce sont les deux hommes de gauche qui, à côté des communistes ou en dehors des communistes, disent non à de Gaulle.
Alors, en 1971, au congrès d'Épinay, c'est pas seulement un homme qui se proclame de gauche, on vient de l'entendre, qui devient patron du PS, c'est aussi un tacticien. C'est-à-dire qu'en fait, ce pourquoi on l'a désigné à tête du PS, c'est pour une alliance avec les communistes, qui à l'époque sont beaucoup plus puissants que les socialistes, il faut le rappeler, mais grâce auxquels il va, 10 ans plus tard, finalement, remporter les élections de 80.
Oui, la grande force de François Mitterrand, c'est évidemment sa force stratégique. Je ne pense pas, je suis même sûr, que les questions doctrinales l'intéressent beaucoup. Ce qui l'intéresse, c'est évidemment la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir par la gauche, et puis la conquête du pouvoir par lui-même. Et pour cela, il a parfaitement conçu la nécessité de l'alliance avec le Parti communiste. Alors,
c'est un programme commun en 72.
Cette alliance nécessite, oblige, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une alliance à cette époque avec le Parti communiste sur un programme vaguement réformiste. Donc il faut affirmer, là encore, son adhésion à la gauche, et je dirais même socialiste, puisque on vient de l'entendre, c'est le thème de la rupture avec le capitalisme.
Alors, un peu un marché de dupes, un programme commun qui va se faire au profit du PS. Le PC s'en rend compte, il y a une rupture en 77, on ne renouvelle pas le programme commun, ce qui n'empêche pas François Mitterrand, donc en 1981, de gagner l'élection présidentielle et de faire revenir les socialistes au pouvoir.
Quand je dis « Vive la République et vive le socialisme !»
Nous sommes entendus. Il y a comme un mouvement dans les esprits. L'espérance prend corps. Et nous pouvons gagner. Et si nous le pouvons, alors nous le devons.
Voilà l'estimation. 20h, François Mitterrand aurait obtenu, selon la Sofresh, 51,7% et Valéry Giscard d'Estaing aurait obtenu 48,3%. Dans cette hypothèse, 51,7, François Mitterrand deviendrait le nouveau président de la République.
Changeons la vie ici et maintenant, c'est aujourd'hui que l'avenir se rompe, changeons la vie ici. Les travailleurs travaillent pour la France, pas au profit de quelques possédants, pour partager les fruits de l'abondance. Changeons la vie ici et maintenant.
France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, le Parti Socialiste Français de Guy Mollet à François Hollande.
Et c'était Changer d'avis par le groupe Unisson, des paroles d'Herbert Pagani sur une musique de Théodorakis. Alors c'était la chanson des campagnes des années 70, début 80. Michel Vinox, c'est plutôt le Parti Socialiste qui a changé, parce qu'en 83, cette chanson pleine d'espoir, ben, ça devient une chanson pleine de désillusions.
Rappelons-nous que Changer l'avis, c'était le titre du programme
commun.
Du Parti Socialiste. C'est très ambitieux de changer la vie des gens, n'est-ce pas? Mais en disant cela, on est bien enraciné dans une philosophie de gauche, la philosophie des Lumières, n'est-ce pas? Nous en parlions hier. Comment, en changeant les institutions, en changeant les lois, on pouvait changer la vie des gens? Ce qui est pour le moins discutable, mais enfin, c'est une philosophie. Et on y croit. Quand on est de gauche, on croit à cela. Et malheureusement, il y a, en dehors du rêve, il y a la réalité. Et il faut, quand on arrive au gouvernement, se colter avec cette hostilité du réel ou cette complexité du réel. Et à ce moment-là, les grands rêves, les grandes idées, la rupture avec le capitalisme, tout cela devient effectivement inefficace ou n'est pas opérationnel. Alors on procède à des nationalisations, etc. Mais on le sait très vite, dès 82-83, c'est un retour à la norme. On accepte finalement l'économie de marché, la libre entreprise. Et au paradoxe, les années 80 vont être véritablement les années de la bourse, de l'enrichissement, etc. Alors là, il y a eu, je pense, une erreur d'appréciation. C'est-à-dire que pour beaucoup, ce n'était qu'une parenthèse. Pour beaucoup de socialistes, ce n'était qu'une parenthèse et que reviendrait un moment où on pourra recommencer la grande espérance révolutionnaire, au fond. Et ils ont raté le cap, me semble-t-il, parce que c'était à ce moment-là où il fallait faire le grand congrès, disons, ou le grand manifeste de social-démocrate. Et ce qu'avaient fait tous les partis d'Europe, le grand congrès allemand de 1959, de Bad Godesberg, quand les Allemands avaient dit « Nous renonçons au marxisme parce que le marxisme n'est pas efficace dans une société dans laquelle nous vivons », les socialistes français ne l'ont pas fait. Ou plutôt, ils l'ont fait très tardivement et de manière subreptice au congrès de l'Arche, l'Arche de la Défense, en 1991.
Dans tout le monde,
personne, n'est-ce pas, qu'est-ce que c'est? Bon, je ne sais pas si même les militants, les jeunes en tout cas, se souviennent de ce congrès où effectivement, il a été dit des mots qui sont purement sociaux-démocrates, tels que le mot central de la social-démocratie, c'est l'idée de compromis. L'idée de compromis. Il y a un système capitaliste, mais il y a aussi une force socialiste, et on doit faire un compromis pour que l'économie capitaliste n'empêche pas le progrès social. Eh bien, ce congrès s'est fait comme ça, dans une sorte de silence, sans écho. Mais normalement, et théoriquement, les socialistes sont devenus sociodémocrate.
En tout cas, on a pu se demander, on n'a pas le temps, bien entendu, de faire les 14 ans de présence de François Mitterrand à l'Élysée, mais on peut se demander même s'il était socialiste. C'est d'ailleurs en tout cas la question que l'on s'est posée au lendemain de sa mort, en janvier 1996, la revue de presse Stéphanie Duncan.
Oui, à la mort de François Mitterrand, l'heure est au bilan, avec parfois des grincements de dents, surtout à gauche. Mitterrand était-il vraiment socialiste et que laisse-t-il en héritage? Dans Libération, Éric Dupin place sans hésiter Mitterrand, dont la tardive conversion socialisme fut, dit-il, plus sincère que son cynisme ne portait à le croire, il le place sans hésiter à côté de Jaurès et de Léon Blum. La gauche française, dit-il, vient incontestablement de perdre une de ses grandes figures historiques. Avant lui, le parti du mouvement se vivait comme une force seulement de contestation, Jaurès n'ayant jamais gouverné et Blum seulement un an. Le grand legs de Mitterrand, affirme Éric Dupin, sera d'avoir banalisé l'alternance et prouvé que la gauche pouvait gouverner dans la durée. Donc Mitterrand a bel et bien déniaisé la gauche, dit-il. un déniaisé. Alors Régis Debray, un de ceux qui à gauche y ont cru très fort, parle lui dans Le Monde avec un brin d'amertume du dégrisement de sa génération, de la fin des illusions. Nous avions, dit-il, confié nos folies à cet ambitieux solitaire, il nous les a rendues changées en vil plomb. Équilibre du commerce extérieur, grand marché, Rémy. Mais, admet Régis Debray, on s'était raconté des histoires, on vivait dans l'imaginaire, voyageant en première avec un billet de seconde, lorsqu'un contrôleur charentais est arrivé, affable et malin, et nous avons regagné en douceur le bon compartiment. Exit l'arrogance, un tour à gauche, un tour à droite, la France, une démocratie comme les autres, enfin. En plus sévère, Alain Finkielkraut, dans l'événement du jeudi, reproche à Mitterrand d'avoir substitué à l'idée socialiste en ruine une morale antiraciste drapée dans la publicité. Guy Sorman, lui, toujours dans l'événement du jeudi, rend hommage à sa manière à Mitterrand. Un vrai socialiste, dit-il, qui a démontré que le socialisme ne marchait pas en France. Ce qui fut, de sa part, dit-il, un apport involontaire mais considérable. Alors, c'est un peu aussi le sentiment de politologue Philippe Benetton dans le Figaro. François Mitterrand, comme tout bon dignitaire socialiste, dit-il, était un infatigable sermonneur. Mais dans les faits, dit-il, il a liquidé la doctrine constitutionnelle et économique de la gauche, ce qui, pour le chroniqueur du Figaro, est un service qu'il a rendu au pays. Alors je terminerai à nouveau par l'excellent article d'Éric Dupin dans Libération, qui lui déplore le vide doctrinal laissé par Mitterrand, qui n'était pas un théoricien. Aujourd'hui, constate Éric Dupin, Mitterrand laisse derrière lui une gauche terriblement affaiblie, sans repère, qui n'a pas su accoucher d'une puissante formation social-démocrate.
Un commentaire, Michel Vinocq, vous avez déjà évoqué le rendez-vous
oui,
avec la social-démocratie.
Je pense qu'on a beaucoup médité sur ce double septennat. De manière paradoxale, François Mitterrand, a-t-on dit, a sauvé les institutions. Il a sauvé le libéralisme. Enfin, on a dit toutes sortes de choses qui n'étaient pas forcément très plaisantes pour lui. Je crois qu'un des mérites de cette période a été d'instaurer en France l'alternance. Hein, on l'a dit, je crois, dans un des articles. Parce que n'oublions pas que jusqu'en 1981, la démocratie française parlementaire ne fonctionne pas comme elle doit fonctionner normalement. C'est-à-dire une majorité, une opposition qui alterne. Eh bien, pour la première fois, cela s'est fait. Et l'ancienne opposition, la gauche, a quand même gardé le pouvoir assez longtemps pour rendre crédible, par conséquent, ses espérances.
Alors, une alternance qui s'est faite aussi aux dépens du Parti Socialiste. Michel Vinocq, affaibli et victime, on le sait, d'un désastre électoral il y a un an, quand le soir du 21 avril 2002, vers 19h, Ségolène Royal n'imaginait pas encore qu'une heure plus tard, le candidat du PS pourrait se retrouver derrière celui du Front National.
Vous croyez qu'il a donné envie, Jospin, vous croyez qu'il donne envie?
Je pense aussi qu'il a gardé des forces pour l'entre-deux tours. Je crois que c'est important. Hein,
il y a un premier tour.
La campagne qui commence. Oui, mais vous allez voir, je pense que les résultats seront bons.
Il est 20h, voici notre estimation.
De notre point de vue, pas de problème, ce seront Jacques Chirac. Jacques Chirac, 19,8% des voix et Jean-Marie Le Pen, 17,4%.
On va tout de suite découvrir le score de Lionel Jospin. Donc...
Alors c'était l'ambiance à l'atelier de campagne du PS il y a un an, Michel Vinocq, l'émotion des militants qui ne comprennent pas la défaite de Lionel Jospin. Selon vous, c'est la défaite d'un homme ou d'un parti?
Oh, les deux, certainement. Un homme parce que je crois que, oui, Lionel Jospin manque de charisme, hein, on l'a dit. En faisant des comparaisons, Jaurès, Blum, Mitterrand, bon, ce n'était pas la même figure, mais c'est aussi quelqu'un qui n'a pas cherché ou pas suffisamment cherché à rassembler ses partenaires de la gauche pour avoir un candidat, ou en tout cas deux au maximum. Voilà une gauche plurielle qui se présente avec quatre candidats. S'il n'en avait eu que deux, voire trois, peut-être que, sans doute, Lionel Jospin serait passé au deuxième tour. Alors le parti...
En se présentant lui-même en disant « je ne suis pas socialiste ».
Oui, ça aussi.
Bah, bon, c'est quand même pas mal.
C'est vrai. Pour le... Mais, bon, je pense aussi que la politique... du parti, du gouvernement de Lionel Jospin a présenté beaucoup de carences, on ne peut pas faire un bilan en quelques secondes, mais en particulier, il y a eu une frustration, c'est vrai, de la part de l'électorat, je dirais, habituel du Parti Socialiste, quand on pense que l'ensemble, la majorité des ouvriers et des employés ont donné leur vote à la droite et l'extrême droite.
Dans deux ans, Michel Vinocq, le Parti Socialiste aura 100 ans. Est-ce qu'il ira très au-delà, selon vous, et à quelles conditions? en deux mots.
Je pense que oui, parce que nous avons besoin, dans une démocratie, encore une fois, de deux grandes forces, de deux grands courants. Or, qui pourrait prendre la place du Parti socialiste à gauche? Il n'y a aucun candidat pour cela. Mais il faudrait évidemment que ce parti se dote d'une doctrine renouvelée, ait une ambition nouvelle. Et en particulier, je ne dirais que cela, ce qui me frappe beaucoup, c'est de ne pas le voir suffisamment branché sur la perspective européenne. Parce que tous les problèmes sont devenus européens au minimum. Alors pourquoi ne pas s'entendre entre socialistes français et les socialistes des autres pays d'Europe pour avoir une politique, un programme, voire une stratégie commune?
Merci Michel Vinocq. Et puis bon anniversaire, puisque ce sont actuellement les 25 ans de la revue L'Histoire, dont vous êtes le fondateur, anniversaire qui fera l'objet d'une prochaine émission, puisque nous nous servons souvent dans 2000 ans d'histoire de votre revue. Vous êtes l'auteur aussi d'une histoire du socialisme, le socialisme en France et en Europe, 19e-20e siècle, publié dans les collections Point et Éditions du Seuil. À lire également Le Parti Socialiste de Hugues Portelli, édité en 97 aux éditions Mon Chrétien dans les collections Clé Politique.